Bon, merci pour ces textes passionnants, toutes les deux. Quelques questions, évidemment, pour lancer les choses. Alors, la première pourrait s'adresser à toutes les deux, la première question. Puisque dans le paragraphe qui a occupé la précédente séance, notamment le commentaire qu'en a fait Patricia Zarowski, Lacan évoquait l'inconscient comme la cohabitation de l'être parlant avec la langue.
Oui.
Et là, il parle de copulation du sujet avec le savoir.
Oui.
Alors, un peu curieux, je me demandais comment on passait de la cohabitation à la copulation. Et attendez votre avis là-dessus.
Ben, j'ai une réponse.
Je note.
Elle est appliquée par tout ce que j'ai dit. Alors, comment je vais le dire ? Eh bien, voilà, je vais le prendre par le côté plus clinique. Tout sujet, pour tout sujet, quel qu'il soit, quelle que soit sa structure, il y a cohabitation avec la langue, psychose ou pas. OK ? Mais ce n'est pas pour tout sujet qu'il y a copulation avec la langue. Pour qu'il y ait copulation avec la langue, il faut que le 1 d'exception constitue en unité l'inconscient langage. C'est une réponse valable, je crois.
Parfait. Du coup, je pose directement ma deuxième question qui était là-dessus. Puisque justement,
vous insistez sur la
consistance de la chaîne et sur ce qui donne l'unité du langage, d'un langage, l'unité d'un langage,
oui.
L'unité qui atteste du 1 unifiant. Vous écrivez pour nous toute la série de ces 1 que Lacan a cherché à mettre à cette place-là,
oui.
Le nom du père, la lettre, le symptôme fiction, le dire de nomination,
oui.
Et donc le 1 d'exception,
oui.
Le S1 en dehors de la parenthèse, en dehors de la collade.
Oui.
Vous rapprochez le nom du père et ce 1 d'exception. Alors, si on pousse les choses, est-ce qu'on pourrait alors parler dans les cas où l'unité de la copulation avec la langue ne se fait pas, de forclusion du S1 ?
Oui, pourquoi pas. Oui, forclusion du S1, bien sûr.
Forclusion
du nom du père, c'est la forclusion d'un nom qui a la même fonction que le... Et d'ailleurs, c'est très... L'idée, si vous voulez, que dans RSI, il identifie ce 1 à la lettre symptôme, elle ne m'est pas venue par hasard. Elle m'est venue parce que dans la page où il dit n'importe quel 1 de l'inconscient peut s'écrire d'une lettre unique à être identique à soi-même, il embraye immédiatement sur le problème de l'exception et ensuite de l'exception paternelle. C'est-à-dire qu'il avait bien en tête qu'il avançait une structure d'exception. La lettre est exception par rapport à tous les signifiants du langage. Ça peut s'écrire, hein. Je l'ai fait dans mon cours, on peut écrire ça facilement.
Bon, alors pour Françoise, Françoise, tu parles du vrai signifiant maître, du 1, du Yadelin, comme un 1 incarné qui prend corps. Moi, j'ai vraiment une question sur le prendre corps. Est-ce que ce 1 prend corps parce qu'il est parlé et joui ? Mais à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas le cas de tous les S1 dans les S1, dans la parenthèse ?
Ben, y en a un qui... Enfin, pour accéder au langage, un entre autres,
oui.
Il prend le corps. Quand j'ai un entre autres, il va y avoir plusieurs. Ensuite, mais c'est vrai que ce incarné, le corps, c'est toujours la question du corps. Hein. Donc c'est un corps de quoi ? De langage, un corps de...
Je sais pas.
Un sujet. C'est un sujet qui parle. Est-ce que le corps, c'est vraiment une question...
Mais est-ce que dans la parenthèse, évidemment, Lacan, il est à ce moment-là, il a déjà formulé depuis longtemps que l'inconscient chiffre la jouissance. Hein. Donc les 1 signes du sujet ce sont les uns qui chiffrent la jouissance. C'est pourquoi j'ai rappelé le texte où il évoque que l'inconscient qui travaille dans le rêve, le lapsus, c'est-à-dire à chiffrer la jouissance, il suppose un sujet. C'est donc les uns qui sont écrits dans la parenthèse, ce sont des uns qui ont à voir avec la jouissance. Alors, est-ce que du 1 d'exception, parce que dans ce séminaire-là, il ne dit pas l'être, il ne dit pas symptôme, il ne dit pas dire, là, il dit signifiant maître. C'est-à-dire qu'il reprend une expression qu'il a déjà utilisée en d'autres sens, hein, signifiant maître, une sorte de nouvelle définition du signifiant maître, qui n'est pas la définition du discours du maître, je ne crois pas. Bon, en tout cas, je ne crois pas. Alors, ce « un », est-ce qu'on peut le dire incarné, le « un » de la lettre? Oui, lui aussi, puisque quand c'est la lettre du symptôme, quand il écrit « f » de « x », « f », c'est une fonction de jouissance. C'est comme « phi » de « x » dans les formules de la sexuation. « F », c'est la fonction jouissance, et n'importe quel élément de l'inconscient peut faire argument à la fonction jouissance. Donc, il connecte aussi plus nettement dans RSI qu'ici. Ici, il le présuppose en quelque sorte. Il ne nous l'explique pas, plutôt. Il ne nous l'explique pas. Il dit le 1 est incarné. Bon. Et on le perçoit beaucoup mieux dans le texte de RSI, puisqu'il parle d'une lettre de jouissance qui fixe la jouissance, toujours identique à elle-même. On retrouve le sans perte, qui était déjà posé dans encore. Donc, c'est comme ça que je m'explique ce 1 incarné. Dans les deux cas, que ce soit les 1 de la parenthèse qui chiffrent la jouissance, ou que ce soit le 1 qui donne l'unité de jouissance, en quelque sorte. C'est l'unité de jouissance. Et quand c'est borroméen, on le voit très bien avec la figuration borroméenne, quand cette unité est borroméenne, on comprend que ce n'est pas seulement la jouissance d'une lettre. Ça inclut la jouissance, toutes les jouissances. Jouissance en deux mots, jouissance phallique, jouissance de la lettre. Il y a une question.
Agnès Willem et Carlos après.
Je voudrais revenir à tout petit peu en arrière pour Colette. Je trouve que vous insistez beaucoup sur le 1 d'exception qui est issu de la contingence.
Oui.
Je comprends du hasard. Hein,
oui.
Et vous dites,
oui.
Donc
oui.
Ça veut dire pas d'une intention.
Oui.
Hein,
oui.
Et
oui.
Que donc, vous insistez même que l'interprétation peut être hasardeuse ou devrait l'être.
Oui.
Et donc je me demande d'une part pourquoi, et il doit y avoir des raisons quand même, pourquoi les parents s'appliquent.
Pourquoi
les parents s'appliquent à être des bons parents si c'est le hasard qui est à la commande? Et
oui.
Autre question, pourquoi les analystes travaillent autant comme nous? Et
oui,
voilà. Hein, oui. Et peut-être il faut travailler autant pour laisser une chance au hasard. Je ne sais pas, j'aimerais
oui.
voir comment ça s'articule.
Eh bien, oui, c'est une excellente question. Je trouve les parents s'appliquent. Et ils échouent. Ça, au moins, il faut poser ça en même temps. Bon, donc, est-ce que le fait, par exemple, que le rat a passionné l'homo rat depuis son enfance, ça ne vient pas de l'autre, ça. C'est un truc à lui. Il a un intérêt passionné, jouissif de cet animal, de ce signifiant. Ça se déduit d'aucun autre. Et l'éducation peut faire tout ce qu'elle veut. Il n'empêchera que le rat est à sa place dans l'inconscient par contingence. Hein. Que le sujet que Freud nous dit, qu'il lui faut une dame avec un brillant sur le nez, contingence translinguistique. Mais contingence, ça ne vient pas de l'autre. Donc, ce que la contingence, elle ne s'applique pas au discours de l'autre. Quoique, attendez, je vais nuancer. Elle s'applique aux éléments qui chiffrent la jouissance. Hein, qui chiffrent la jouissance et qui ne dépendent pas du rapport à l'autre. Donc c'est limité. Alors, dans une analyse, évidemment, l'analyste, il intervient aussi au niveau de la vérité du sujet. Il y a des interprétations qui peuvent concerner la vérité du sujet, sa position par rapport à l'autre, etc. Mais si une interprétation veut faire émerger un signifiant de l'inconscient, ça ne peut être qu'au hasard. Comme le fait que la rencontre du capitaine Cruel a fait sortir le rat des tréfonds où il était tranquille et fait émerger une obsession, une jouissance du rat par la pensée à travers le scénario terrible. Hein. Donc, c'est ça. C'est pas, quand je dis une interprétation hasardeuse, c'est celle qui veut faire émerger les signifiants qui se sont fixés de façon contingente. C'est-à-dire, précisément, dans le registre du réel, pas de la vérité.
Oui, je voulais revenir sur, disons, ces trois dimensions du un, déception, c'est-à-dire la dimension déception, incarnée et unifiante, puisque, d'une certaine manière, en tout cas, bon, c'est aussi une question, ça fait référence à la question du nom du sujet. C'est-à-dire que le nom, ça donne une unité, c'est ce qui permet aussi, ça colle à la peau, et ça permet en fait au sujet de se reconnaître, et ça peut aussi, quelque part, en fait, regrouper l'ensemble en fait, de ces, disons, des signifiants dont il fait l'usage, disons, communauté. Donc voilà, je voulais vous soumettre en fait cette idée, oui, en fait, justement,
c'est
pour...
Ce que, enfin, voilà. Je veux dire, c'est ce que je dis quand je dis, c'est le dire... qui vient à la place du 1. Le dire, c'est le dire de nomination, hein, essentiellement. Donc oui. Oui, il y aurait à dire là-dessus. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que, au fond, quand Lacan introduit le dire comme fonction de nomination... C'est en même temps qu'il dit le père n'est pas seulement le nom du père, c'est le père qu'il nomme. Donc il ramène comme possible nommant, en quelque sorte, le père. Mais en même temps, le dire de nomination, comme j'ai dit, il n'a pas d'agent prescrit. Il est contingent. Il peut y avoir un père qui ne nomme pas, qui ne... produit pas le dire de nomination, il peut y avoir un non-père, un non-papa au sens du qui produit un dire de nomination. Et donc, ça nous amènerait à ce dont on va parler aux prochaines journées de décembre.
Ça rassure quand même.
Comment ?
Ça rassure.
Quoi ?
Il ne faut pas que ça soit le père officiel.
Oh ben oui. Il y aurait de quoi être inquiet. Oui. Oui.
Dire qu'il peut venir,
oui.
Collatéralement.
Frédéric Pellon.
Oui, alors j'ai été. Tout ça, c'est très rapidement. J'ai été un petit peu gêné, ou j'ai pas dû comprendre deux formules. Il y en a une qu'on a déjà commencé de commenter. Mais dans ce qu'a dit François Josselin, j'ai eu un peu de mal avec. L'expression « unité de jouissance positive », puisque il me paraît, à moi en tout cas, difficile de faire copuler l'unité et la jouissance, justement. Il me semble que... Ouais. Non, mais je le dis. Bon, peut-être, je peux peut-être en recevoir une petite explication sur ce point. Et dans ce qu'a dit Colette Seller, j'étais moi un petit peu en difficulté avec ce... Mais là, on a commencé à le discuter. J'étais un petit peu en difficulté avec ce S1 qui serait pas de l'autre. Enfin, qui ne viendrait pas de l'autre. C'est-à-dire que si S1 reste insignifiant, pour moi, enfin, dans ma conception peut-être trop étroite, il est nécessairement quelque, d'une certaine manière, de l'autre. Et je trouve que l'exemple du rat est aussi, peut être aussi renversé comme étant un exemple de ce que je dis, puisque il me semble que c'est pas parce que le sujet, à un moment donné, peut-être l'a choisi comme je sais pas quoi, vecteur, disons, de sa jouissance, qu'il ne vient pas de l'autre, et que, au fond, l'irruption du capitaine cruel répète aussi ça d'un certain point de vue. Alors, est-ce que Colette Seller veut dire par là qu'au fond, il n'y a de S1 dans le sens du S1 hors de la parenthèse qu'un S1 d'invention? Voilà donc la question. Et puis je voulais attraper un mot aussi, le mot surmonté, qui est le mot de Lacan pour aborder cette topologie horizontale, si je puis dire. Parce que bien entendu, c'est le mot de Freud pour l'état maniaque, si vous vous en souvenez. Puisque on est en état maniaque quand on a surmonté le complexe. Ça, c'est dans le texte de 21.
L'association hardie.
Et du coup, j'avais envie d'interroger, mais là, c'était une question alors, directement clinique, j'avais envie d'interroger Colette Seller, qui a beaucoup, à une époque peut-être déjà un peu lointaine, parlé du SSSSS pour le maniaque, et qui a beaucoup écrit là-dessus. Et qui a inspiré un certain nombre de gens avec ça, dont je suis. Au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ça? On était dans la connotation clinique à un moment donné de la schizophrénie, il faut le dire. Et au fond, qu'est-ce qu'on fait avec ça en se souvenant aussi de toutes les considérations sur les relations entre état maniaco-dépressif et fin de l'analyse qui avaient été faites auparavant par Lacan, bien des années auparavant. Voilà. Je rends le micro.
Oui, dans l'énumération que j'ai faite, schizophrène, mentalité désarrimée, hyper-normalité, j'aurais pu ajouter la manie, effectivement, mais je n'ai pas fait forcément une collection complète, là. oui. Alors, je vais essayer... Alors, vous vous étonnez d'entendre parler d'unité positive pour la jouissance. Unité
de jouissance positive.
Unité de jouissance positive, mais Frédéric a dit qu'il était étonné par l'expression unité de jouissance.
Parce que ça copie.
Pas par positive. Positive vous va bien, oui. Vous n'êtes pas sur le versant dépressif aujourd'hui. Bon. Unité de jouissance, oui, oui. Ah ben, unité de jouissance, alors là. C'est vraiment quelque chose qui s'impose de Lacan. Bien sûr, unité de jouissance n'exclut pas que la jouissance divise le sujet. Ce n'est pas le sujet qui est unifié dans la jouissance. Hein. Mais quand il dit une lettre de jouissance identique à elle-même, c'est une unité de jouissance. Une lettre jouie identique à elle-même. Alors...
positif parce que jouit.
Oui, oui, bah, positive. Moi, quelquefois, je parle, j'utilise le côté positif, c'est-à-dire que on est habitué surtout au côté négatif, où il n'y a pas, il n'y a pas de complétude du sujet, il n'y a pas de rapport sexuel, il y a la perte de la répétition. Donc, on est habitué à tout le négatif. Bon, et en fait, le symptôme, l'idée que le noyau, la fiction avec un X du symptôme, c'est pas du négatif, c'est du positif au sens où c'est de la jouissance qu'il y a, malgré celle qu'il n'y a pas, il y a quand même une jouissance, et donc il faut bien dire que le sujet ne se plaint pas toujours, même assez finalement, au final il s'en plaint pas. Il vit, c'est ça qui le fait vivre, même, dit Lacan. Donc on peut justifier le mot positif. Il n'est pas absolutisé non plus, mais on peut le justifier. Mais c'est plutôt la question unité de jouissance que moi, j'accentuerais quand je lis, sous la plume de Lacan, une lettre qui fixe de la jouissance identique à elle-même. La unique à être identique à elle-même. Le signifiant n'est jamais identique à lui-même, bien sûr. Alors, pour ce qui est du signifiant, pas dans l'autre, peut-être il faut préciser, tous les signifiants viennent de la langue, mais la langue, ce n'est pas l'autre.
Voilà.
Évidemment, et des fois, il y a du flottement dans l'usage qu'on fait du mot « autre hein ». Donc, quand je dis « c'est un signifiant qui n'est pas dans l'autre », il faut préciser « c'est un signifiant qui n'est pas dans le langage ». Et je dis pas dans l'autre, parce que l'autre, c'est le lieu du signifiant, mais c'est le lieu de la parole aussi, le lieu du discours. Alors peut-être c'est plus rigoureux de dire que c'est un signifiant qui n'est pas dans l'autre, qui n'est pas dans la parenthèse de la structure langagière S1, S2. Bon. Et ça, c'est ce que Lacan écrit à répétition, je dirais. Alors, l'autre question, c'était sur la manie. Alors, la manie, je trouve que vous faites une, Frédéric, une association hardie entre le Lacan qui dit, le 1, l'un dire surmonte les 1 du sujet, et vous faites une association avec Freud disant que dans la manie, le complexe d'Œdipe est surmonté. C'est vrai que j'ai écrit sur la manie et que j'ai fait valoir que la structure de la manie, c'est S1, S1, S1. On n'a pas du tout ça, justement. On a une fragmentation. Avant d'introduire ça, j'ai commencé par une grande critique de Freud, si vous vous souvenez, dans mon article, justement pour dire que je pense que Freud, je crois que c'est sûr, il s'est trompé sur la manie, Freud. Il a fait de la manie une espèce de phénomène festif, n'est-ce pas ? Il s'est laissé prendre au côté... Il a confondu l'excitation maniaque incoercible avec la satisfaction de la transgression de la fête. C'est pas la même chose. Dans mon idée, je crois que Freud, sur la manie, il s'est planté. Il a pas trouvé. Alors moi, quand il dit il surmonte le complexe d'Œdipe et les inhibitions qu'implique le complexe d'Œdipe, non, c'est qu'il n'y a pas de complexe d'Œdipe, voilà. Plutôt. Hein, dans la manie, c'est quand même un phénomène de psychose. Donc il surmonte pas l'Œdipe. C'est plus... si on dit l'Œdipe équivalent du nom du père.
Surmonter, c'est pour. En fait, il y a deux passages. Il y en a un dans la psychologie des foules et un autre dans la Et par rapport au complexe, ça m'est revenu. Dans...
Oui.
C'est enjambé.
Oui, oui.
Je
ne
connais pas éternellement.
Oui.
Et quand tu parles de surmonter, c'est par rapport à l'idéal.
Oui.
Je ne sais plus dans lequel des deux textes il y a.
Oui.
Mais le sujet supposé de l'entre-deux, hein, tu as dit ça à la suite.
Oui.
Hein, l'adire surmonte le sujet supposé de l'entre-deux des signifiants.
Oui. Le sujet supposé, si on le met, on l'écrit dans ce schéma. Oui. Tiens, mais ça marche. J'arrive à sortir. Si on veut placer ce qu'on appelle le sujet supposé au sujet représenté, dont les signifiants font signe.
Ah.
Il est là.
Celui-là, il marche bien.
Il est là, il n'est pas là. Hein. Ouais. Là, on a peut-être ouais, ouais, par lettre.
Là, on a... Voilà. Mais est-ce que... J'ai une question, oui.
Colette, est-ce que... Moi, je m'étais représenté la question du S1, du 1 incarné, puis la série, comme la théorie des ensembles. C'est-à-dire, on a les saints au milieu, et c'est l'ensemble vide qui fait le S1, qu'il appelle par ailleurs le indire, et qu'il appelle aussi le grand autre, par moment, dans au pire.
Hein?
Parce que moi, il y a une phrase que je n'ai absolument pas compris, c'est quand il dit l'autre, c'est l'un en moi.
Ah, si, ça, oui.
Hein, moi, je n'ai pas compris.
C'est autre chose, c'est autre chose, je crois.
Mais c'est dans ce...
attends,
je me suis dit, sauf si c'est le 1 de l'ensemble vide, qu'on ne compte pas, qu'on ne compte que quand on compte les parties.
Oui, j'avais commenté ça dans le séminaire anglais, puisque j'avais commenté ce passage, ce schéma. Et j'avais noté que c'est étrange que dans ce paragraphe, Lacan utilise une métaphore, une image, celle de l'essaim, avec toute la multiplicité des abeilles, et ça fait un. Hein? Bon, c'est une image, c'est une métaphore. C'est très rare que Lacan procède par métaphore. Hein? Et je me suis dit, j'avais posé la question, pourquoi n'a-t-il pas utilisé ce qu'il avait sous la main, qu'il évoque avant dans le séminaire, qui est la théorie des ensembles, et qui pose qu'en effet, pour avoir un ensemble, il faut un qui soit hors de l'ensemble. Et pourquoi il n'a pas utilisé ça pour ce schéma?
Je sais.
Dis-moi.
C'est parce qu'il est bourdonnant.
Non, je crois pas.
C'est le bourdonnant de la langue.
Mais non, mais parce que tu peux avoir un ensemble de choses très bourdonnantes. Pourquoi un ensemble ne serait pas bourdonnant? Ah, les saints d'abeilles est bourdonnant. Voilà. Alors, le bourdonnant, effectivement, bourdonnant. Tu as raison. Je n'avais pas compris ce que tu voulais dire. Le bourdonnant, il est là pour nous indiquer la présence de la jouissance qui vibre, qui fait du bruit, voilà, etc. Bien sûr. Oui. Mais pourquoi il n'utilise pas... Pourquoi il n'utilise pas le schématisme de l'ensemble, de la théorie des ensembles? Mais on pourrait le. Bien sûr qu'un ensemble, ça peut piquer. Bien sûr. Si vous faites un ensemble des couteaux pointus, ça pourra bien vous piquer et même vous couper. Non, je m'étais formulé une seule raison, c'est que dans la théorie des ensembles, le 1 qui est hors de l'ensemble, on peut l'exhiber. On peut l'exhiber, il faut pouvoir l'exhiber. Tandis que là, justement, il nous parle d'un 1 incertain et hypothétique. Et donc, il a cherché à donner une image qui montre de façon sûre le 1 d'une multiplicité, mais dont il ne peut pas dire quel est le nom de ce 1 à ce moment-là. Donc il l'appelle pour l'instant signifiant maître.
Voilà.
C'est comme ça que je me suis expliqué. Ouais.
Ben, je voulais vous remercier parce que vous avez répondu déjà à l'essentiel de la question que je n'arrivais pas très bien à énoncer, mais qui tournait autour de la question de la soustraction, justement. Le 1 dont tu parles, c'est le 1 qui unifie, c'est un 1 qui se soustrait à la chaîne.
Non.
Alors tu vas répondre à ça déjà. Et donc, comme tu l'évoques, tu le mettais quand même en relation avec le Père. Il y a à la fois le côté, tu viens de souligner, qu'il est impossible d'exhiber ou de saisir cette unité. Et en même temps, il y a le nom. Le nom propre, et je voulais te poser la question du nom propre, qui justement se singularise, là quand il insiste souvent et beaucoup, sur le fait que lui, il est hors sens. Il est hors de la chaîne du sens. Ben oui. Il se soustrait à la chaîne du sens.
Il est hors sens.
Oui, mais tout ce comme le nom.
Oui, oui. Mais attends, tout ce qui est hors du langage n'est pas soustrait au langage. Alors, quand Lacan dit, il le dit avant dans le séminaire, hein, y a la seule façon de poser l'autre, c'est comme moins un. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que dans le langage, on ne manie que des 1. Dans le langage, hein, on ne manie que des 1. Donc, il n'y a pas d'autre façon de poser quelque chose qui n'est pas du 1 que de dire c'est un moins 1. Dans le langage, dans la structure de langage qui n'opère qu'avec une combinatoire de 1, chercher l'autre, vous ne pouvez pas l'écrire. Vous ne pouvez pas l'écrire dans la structure de langage. Et donc, dans la structure de langage, il sera seulement comme un moins un. Mais il s'agit de l'autre, il ne s'agit pas de l'autre lieu du discours. Là, il est en train de parler de l'autre sexe. Hein? Il est en train de parler de l'autre sexe. Il a posé le un phallique, l'autre pas tout phallique. Et il se demande comment on le place, comment on le trouve dans la structure de langage, cet autre patophalique. Eh bien, dans la structure de langage, il figure comme un moins un. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans le réel. Bien au contraire. Bien au contraire. Hein. Donc, oui, donc c'est pas la même question. C'est pas la même question que le un. Existant, ce qu'il appelle le un existant. Le un existant n'est pas soustrait au langage. Le un existant, il est hors langage. Il est le un de la consistance du langage. C'est pas du tout le moins un de l'autre. Hein. Il faut mettre dans le contexte les formules. Oui. Alors, c'est vrai que, attendez, en plus, moi, je n'ai pas fait une recherche complète de toutes les formulations qui suivent encore pour identifier, en quelque sorte, ce 1. J'ai mis celle que j'avais bien en tête déjà. Donc, il y a la lettre identique à elle-même, ça, c'est sûr. Et c'est là qu'il formule exception et qu'il rapproche avec le père.
Bon.
La lettre, non. Non, non. C'est le symptôme. C'est le symptôme de jouissance qui est identique à lui-même. Après, il reste toujours sur le symptôme de jouissance et il fait du symptôme le quatrième qui noue les trois autres, hein, dans le symptôme. Et ce n'est qu'ensuite qu'il identifie, là, il identifie au dire. Et le dire, c'est hors signifiant aussi. Le dire, ça se sert du signifiant, mais ça ne fait pas partie du langage, le dire. Hein, c'est pas. C'est vrai que quand il en vient au dire qui nomme, on avance dans les années, on est proche d'une, au fond, d'une identification de ce, hein, de pouvoir dire c'est le nom propre. C'est le nom propre. Le problème, c'est que le nom propre du sujet, on ne le connaît pas. Comme ce n'est pas son patronyme, hein, ce n'est pas son patronyme, alors on dit c'est son nom de symptôme. Ah bon, alors au travail, où est le 1 du 1 de symptôme? Donc je trouve que dans cette histoire de nomination de nom propre, qui est très intéressante, très passionnante, hein, y a un peu. Oui, ça donne un nom au 1 d'exception, hein, ça lui donne un nom, mais comme c'est un nom qui lui-même est à soit à construire, soit à interpréter, soit ça nous libère pas de l'incertitude complètement, pas complètement.
C'est pour ça que Lacan dit il va nommer Joyce. Je lui donne son nom, le symptôme.
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'on pourrait dire que, enfin, ça me fait penser à ça, que le père de la première identification freudienne, c'est-à-dire pas du tout le père oedipien, cette première identification freudienne qui est très très curieuse, enfin très énigmatique. Mmh. Est-ce que ce père qui n'en est pas à ce moment-là, c'est pas le père, c'est pas le papa, c'est pas le père oedipien, est-ce que ça pourrait pas être une sorte d'intuition de Freud sur
l'intuition freudienne
sur ce 1 d'exception? Puisqu'il dit bien, Freud, que cette première identification, elle est inattrapable, mais elle doit être là pour que l'ensemble tienne, pour que le reste tienne.
Il y a un certain nombre de formules, en effet, de Freud qu'on pourrait réutiliser, peut-être pour commenter ça tel que Lacan le pose. Je dois dire que je ne suis pas sûre de ce que je pense de cette première identification freudienne. C'est très difficile parce que Freud, il se tient quand même très près de la patte clinique en général. Et là, il nous parle d'une identification impossible à identifier. Et il ne nous donne pas l'appareil logique, la construction qui permettrait de le situer. Alors, Lacan donne une construction qui permet de situer un 1, qui n'est pas forcément celui du père, mais qui est un 1 d'exception. Alors, on sait de quoi on parle. Avec Freud, avec cette première identification, moi, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi on parle.
Parce qu'il dit la corporation du père. Par
incorporation.
Je me disais,
c'est peut-être là le incarné. Oui.
Identification
par incorporation.
Oui.
Après, il y a le
Trinet.
Après,
Nadine, qu'est-ce qu'il y a de fond, Nadine, Cordova, trop loin. Pas assez.
Oui, il y a. Il y a trois termes qui m'ont interpellée. Vous avez parlé du Colette, hein, de réel du côté de l'incurable. Donc il y a le terme d'incurable, de hasard, et vous avez parlé ensuite du nouveau désir par rapport à celui qui aurait entreaperçu la question du réel. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose justement qui s'ouvre du côté de cet incurable hasard? Et le désir. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces trois termes, puisque il semble que de rencontrer cet incurable, qui rencontre le hasard, quelque chose s'ouvre de quelque chose de nouveau pour le sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait, vous pouvez en dire davantage?
Oui, c'est pas une idée nouvelle déjà. Je pourrais dire que c'est pas une idée nouvelle du tout. C'est une idée de Lacan qu'il a formulée dans les années 67, disant l'analyse, ça vise à produire l'incurable. Produire l'incurable. Mener le sujet jusqu'à savoir l'incurable. À l'époque, ce n'était pas le nœud borroméen, ce n'était pas le réel du nœud borroméen. Bon, c'est-à-dire. Au fond, ça désignait les impossibles de la structure, hein, les impossibles de la structure, et que en effet, on a souvent évoqué ça dans les séminaires l'année précédente, je crois, l'impossible, ça peut alléger de l'impuissance, de l'affect, des affects d'impuissance, du je n'y arrive pas. Quand c'est impossible, bon, on n'y arrive quand même pas, mais on peut ne pas avoir l'affect d'impuissance quand on a perçu qu'il s'agissait de l'impossible. Donc, disons, le caractère positif d'apercevoir une négativité incurable, c'est assuré dans la psychanalyse, et Lacan en a souvent parlé. Alors, quel est le hasard? Un désir, ça désigne le désir de l'analyste dont je parlais, hein, c'est le désir de conduire d'autres dans la... Oui, alors c'est ça, le réel, ce qu'on appelle incurable n'est peut-être pas la même chose suivant le niveau où on se place ou à toutes les époques de l'enseignement de Lacan. Si vous voulez, il y a la définition du réel par l'impossible du rapport, l'impossible qui se démontre. C'est un registre du réel, et c'est à cette époque qu'il a parlé de l'incurable. Le réel d'une jouissance fixée par, dans les accidents de l'histoire et les contingences de l'histoire, c'est pas le même réel. Mais je disais, ça a quand même, moi j'ai employé ce terme qui peut paraître excessif, j'ai parlé de la transcendance de ce réel. C'est pas une transcendance divine, mais c'est quand même transcendant dans la mesure où ça dépasse le sujet et où il n'a pas de prise là-dessus. Bon. Alors, c'est ce que je dis. Oui, c'est ça. C'est un autre incurable. C'est un autre incurable. C'est pas l'incurable du non-rapport. C'est l'incurable de ce qui se substitue au rapport qui manque. La fixation même de jouissance qui se substitue au rapport qui manque. Dans tous les cas, apercevoir l'impossible à soigner, c'est ça l'incurable, c'est apercevoir quelque chose d'impossible à soigner, soit parce que c'est une impossibilité qui tient à la structure de langage, soit parce que c'est une fixité contingente qui ne va plus bouger, c'est soulageant. C'est soulageant. Alors après, est-ce que ça produit un nouveau désir ? C'est selon, oui. Oui, oui. Oui.
Bon.
On peut s'arrêter ?
Bon. Très bien. Merci.